frères et sœurs bien-aimés, sans plus tarder, à tourner dans le psaume 23. Et je pense que la plupart qui lisent la Bible connaissent au moins le premier verset par cœur, si ce n'est pas tout le psaume, n'est-ce pas? Mais nous lisons, pour lire dans le contexte, le psaume 23 en entier, mais nous nous arrêterons uniquement ce matin au verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, il y a plusieurs façons d'enseigner et puis d'exposer le psaume 23, mais ce matin, j'aimerais juste vous donner ce que le Seigneur m'a enseigné dans mon cœur un jour en lisant la Bible, en réfléchissant sur le psaume 23. C'est vrai que j'ai déjà prêché, mais il y a des années, verset par verset. Mais ce matin, nous allons regarder le premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, la première question que le Seigneur nous pose ce matin, est-ce que le Seigneur est votre berger? Est-ce que vous lui faites confiance pour combler tous vos besoins? Est-ce que l'Éternel est votre berger? J'ai intitulé ce message « La vie abondante ». Le croyant, comme David, est appelé à vivre une vie abondante, une vie intime, telle que celle qu'avait David envers son Dieu, comme une brebis envers son berger. Vous savez que David était berger de métier avant d'avoir été pris par le Seigneur pour être élevé à la fonction de roi d'Israël. En fait, le berger apporte ses nombreux soins à ses brebis, mais aussi la sécurité et une nourriture abondante. Alors, dans son expérience de berger, David comprenait bien ce rapport qu'a un berger avec ses brebis. Et lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il est en train de dire une grande vérité, illustrée par l'application, n'est-ce pas, de son métier de berger à la vie de la foi. Et de même, le Seigneur, notre berger, comme on a vu dimanche dernier, Jésus est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, nous apporte sécurité, une vie abondante, telle que le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la joie, la tranquillité et la maîtrise de soi. Et on peut dire que le Seigneur nous comble de sa présence. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. C'est pour ça qu'on est heureux d'être ensemble et de louer le Seigneur. L'Éternel est mon berger. Le mot l'Éternel en hébreu, certainement vous le savez, c'est Yahweh. Yahweh, en fait, c'était en fait que des consonnes au départ, Y, H, W, puisque les Juifs qui écrivaient la Bible n'avaient pas les points voyelles qui ont été fixés environ au Xe siècle après Jésus-Christ, par les Massorètes, pour fixer la langue qui était souvent parlée oralement, transmise oralement. Ils ont fixé l'hébreu avec des points voyelles. Ils transmettaient les écrits en écrivant les points voyelles. Et ils avaient un système de mesure, de lettres, pour s'assurer qu'ils ne se trompaient pas dans la transcription des Écritures, en comptant les lettres sur le plan horizontal, sur le plan vertical, ce qui fait que la transmission de l'Écriture a été faite de façon tout à fait précise. Alors, le mot éternel, Yahweh, ils ont ajouté A-E, on ne va pas entrer trop dans ces détails, si ce n'est que c'est les voyelles de Adonai, A-O-E, Yahweh. Il est celui qui est, c'est le nom de Dieu, qui a été révélé à Moïse. En Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous ». Ce mot, en fait, a une affaire avec le temps. Et quand Jésus a osé dire, à un moment donné, à ceux qui l'entouraient, notamment les Juifs, avant qu'Abraham fût « je suis », dans le grec « ego eimi »,« moi je suis », il était en train de reprendre exactement les mots que Dieu avait donnés, l'Éternel, n'est-ce pas, à Moïse, pour lui dire quel était son nom. « Je suis celui qui suis ». Et heureusement que dans notre traduction, nous avons traduit par « l'Éternel », parce qu'il s'agit en effet d'un attribut de Dieu qui a affaire avec le temps. Dans d'autres traductions, notamment en anglais, parfois on traduit par « the Lord », le Seigneur et mon berger, mais l'idée de Yahweh, c'est l'idée d'un Dieu qui est éternel, qui est maître du temps, qui est souverain sur le temps, qui connaît le passé, qui connaît le présent et qui connaît l'avenir. Cela veut dire que dans cette ligne d'éternité, Dieu peut déplacer, quoiqu'il n'a pas besoin de se déplacer, puisqu'il est éternel, omniprésent, omnipotent, omniscient, mais en quelque sorte son curseur pour voir le passé de ma vie, le présent de ma vie et l'avenir de ma vie. Ça veut dire que le même Dieu qui a comblé mes besoins dans le passé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ce même Dieu qui me connaît dans le passé, qui me connaît dans le présent et dans l'avenir, qui connaît mon avenir, est le même Dieu qui a pourvu à mes besoins passés, qui pourvoit mes besoins présents et qui va pourvoir à mes besoins à venir. Et c'est ce Dieu-là qui nous comble de ses bienfaits. Nous pouvons donc placer toute notre confiance en ce berger parce que c'est celui qui prend soin de nous comme un berger et j'ajouterai comme un tendre père envers ses enfants pour nous qui le connaissons. Alors une façon d'aborder ce verset, ce premier verset, c'est de regarder tout d'abord le mot « Yahweh ». Le mot Yahweh dans l'Ancien Testament est souvent composé avec un autre mot hébreu pour souligner quelques aspects des attributs de Dieu. Le premier mot que l'on trouve, c'est l'Éternel Dieu. En Genèse chapitre 2, verset 5, Yahweh Elohim, Elohim qui signifie Dieu, l'Éternel Dieu. En fait, lorsqu'on parle de l'Éternel, c'est une connotation dans sa relation de rédempteur envers l'homme. Alors il y a plusieurs noms composés, comme déjà, j'ai déjà dit de Yahweh, qui sont trouvés et qui révèlent en fait Dieu, celui qui pourvoit aux besoins de l'homme depuis son commencement. Et le premier grand besoin de l'homme, c'est d'être racheté. Et lorsque il est écrit Yahweh Elohim, c'est une relation d'un Dieu rédempteur qui veut connecter avec l'homme afin de le racheter, lui donner le pardon de ses péchés, le couvrir aujourd'hui évidemment par la Nouvelle Alliance, le sang de la Nouvelle Alliance, afin que l'homme perdu puisse être de nouveau en relation avec Dieu et puisse être pardonné et entrer justement dans cette relation intime avec Dieu comme son berger. C'est merveilleux cela. Plus on connaît le Seigneur dans nos vies, plus on le loue pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits. Alors j'ai pris le temps de le noter pour pas que nous ayons un petit peu égaré nos esprits, que nous égarions nos esprits, mais que nous puissions les fixer. Le premier mot que l'on trouve dans l'Ancien Testament, ça se trouve en Genèse chapitre 22, versets 13 et 14, et c'est le mot « l'Éternel pourvoira », « Yahweh Jireh ». Peut-être vous connaissez ce contexte où Abraham, n'est-ce pas, est en train de sacrifier son fils Isaac en obéissance de l'ordre de Dieu. Il est même écrit qu'Abraham se leva de bon matin. Je ne sais pas si nous réalisons ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'Abraham s'est soumis de façon spontanée et immédiate, sans discussion envers Dieu. Il a fait confiance en Dieu. Comme si Dieu allait recouvrir en quelque sorte, nous dit Hébreux chapitre 11, son fils d'une sorte de résurrection. Alors il est écrit, Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier tenu dans un buisson par les cornes. C'est au moment où il allait sacrifier son fils Isaac, qui est évidemment le type de Dieu le Père qui sacrifie son fils pour nous. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La première chose qu'on trouve ici, et vous allez voir que non seulement Dieu est le berger, et que chaque nom composé a à faire avec un attribut de l'Éternel, mais aussi avec la personne de Jésus-Christ, son Fils. Dieu le Père, Dieu le Fils sont égaux, ils forment une seule et même personne avec le Saint-Esprit. Christ est le sacrifice parfait. L'Éternel pourvoira, l'Éternel a déjà pourvu. Que personne d'entre nous ici ne se prouve, ne se prive de la grâce de Jésus-Christ, qui est un sacrifice parfait, notre substitut parfait pour notre salut. Est-ce que vous avez déjà cru en Jésus-Christ comme le substitut qui a pris vos péchés à la croix? Le deuxième aspect que l'on trouve, c'est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Il y a un contexte ici particulier. Vous savez, Israël parfois murmurait. Ça vous arrive de murmurer aussi? Ah, il y a des gens honnêtes. Oui, hein. Qui n'a pas murmuré dans sa vie? Et vous savez, il y a des murmures qui déplaisent parfois à Dieu parce qu'ils sont le reflet, le symptôme d'une profonde incrédulité. Et ça nous arrive aussi de murmurer, au moins dans nos pensées parfois. Alors le peuple arrive à un endroit assoiffé et il tombe sur les eaux de Mara. Mais les eaux de Mara étaient amères. Et donc Dieu a demandé à Moïse de prendre un bâton qui est en fait un type de la croix de Jésus-Christ. Il le plonge dans l'eau et l'eau devient une eau pure et limpide et donc douce qui peut être bue. Et parfois c'est ce que Dieu fait dans nos vies. La vie est amère. Et par la présence de Jésus-Christ, à cause de sa croix et de la manifestation de sa grâce, il rend nos vies possibles de vivre parce qu'il transforme l'amertume en douceur. Et c'est la guérison. Alors la Bible dit ceci, il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, après que Dieu ait transformé l'eau amère en eau douce, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Bien sûr que le contexte ici, c'est le contexte de la guérison physique. Nous croyons que Dieu peut guérir. Et nous l'avons déjà vu, même dans nos propres vies, que Dieu a la puissance de guérir. Mais il s'agit aussi, bien sûr, d'une guérison plus profonde, celle de l'âme. Il y a des maladies de l'âme et du cœur que seul Jésus peut guérir. Il a dit notamment, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est celui qui peut non seulement guérir nos corps, mais aussi les maladies de notre cœur. Un autre aspect que j'aimerais voir ensemble avec vous, c'est Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. C'est le contexte ici d'une bataille qu'avait lieu avec Amalek, un ennemi d'Israël. Peut-être on n'a pas le temps de lire tout le passage, mais finalement il y a Moïse qui prie avec Aaron, Josué qui combat l'armée d'Amalek, et à un moment donné, il est écrit en résultat de la prière, de l'intercession, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Ça veut dire que l'armée du Seigneur, à l'époque c'était Israël, avait une bannière qui signifiait victoire de l'Éternel. C'est Dieu notre victoire. Cette bannière, le fait qu'on ait appelé l'Éternel ma bannière, est le symbole de notre victoire sur notre ennemi juré, le diable, et sur notre chair. C'est le conflit Amalek-Israël entre Dieu et le diable, et je dirais aussi entre l'esprit et la chair. Et notre frère nous a rappelé ce matin que nous sommes morts en Christ, nous sommes morts au péché, notre chair a été crucifiée à la croix, mais cela n'est rendu possible que parce que nous intercédons et parce que nous nous laissons imprégner de la présence de Christ qui a la victoire sur le péché. Christ est ma bannière, Christ est ma victoire. Ça vous est jamais arrivé de passer des moments où il semble que la défaite est peut-être quelque chose de trop commun dans votre vie? Eh bien, la Bible dit « ferme la porte de ta chambre et va prier là dans le lieu secret, Dieu te le rendra ». C'est dans la prière qu'on est délivré, dans la présence de Jésus-Christ, celui qui nous donne la victoire. D'ailleurs, Paul disait en Romains chapitre 8, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ça, ça encourage notre vie. Lorsqu'il semble qu'on est défait, eh bien non, Christ est vainqueur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Un quatrième aspect du mot composé de Yahweh, c'est Yahweh Shalom, l'Éternel, notre paix. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Ça se trouve en Juges chapitre 6. Gédéon a eu la frousse de sa vie. Il a rencontré l'ange de l'Éternel. Il a eu une peur terrible de mourir, lui et les siens. Car rencontrer l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie, c'est-à-dire une présence de Dieu sur terre. Il a eu une crainte terrible de mourir. Et là, il a bâti un autel parce que Dieu l'a comblé de paix en enlevant sa crainte, une paix au-dessus de ses craintes. L'Éternel a envoyé cette paix sur Gédéon craintif d'avoir vu l'ange de l'Éternel face à face. Et nous aussi, nous avons la crainte de l'Éternel. Sa sainteté nous amène à craindre Dieu, à le respecter et à trouver nos vies tellement misérables par rapport à l'idéal parfait et la présence et la personne de Dieu. Nous sommes des pécheurs. La Bible dit que toutes nous sommes des impurs et toute notre justice est comme un vêtement impur. Nous avons besoin d'être graciés, d'avoir la paix malgré ce qu'il nous trouble, ce qui nous trouble dans notre vie face, n'est-ce pas, à Dieu. Et les disciples dans la barque, lorsqu'ils ont vu Jésus apaiser la tempête, n'est-ce pas, ils ont eu la crainte de voir Dieu et sa puissance intervenir. Et c'est parfois la même chose pour nous. Face à la puissance de Dieu, nous avons une crainte qui pourrait nous faire perdre la paix. Mais Dieu est prêt à nous donner la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il peut me donner sa paix. Enfin, il y a Yahweh Tsikenu. C'est Christ ou l'Éternel, d'abord notre justice. En son temps, Judas sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Un jour, Dieu fera justice sur Israël. C'est un temps de rétablissement d'Israël, de restauration d'Israël. Ce sera un temps, c'est une prophétie sur la venue du Messie qui va établir son règne sur la terre pendant 1000 ans. Israël sera converti et restauré. Et on appellera Dieu l'Éternel, l'Éternel notre justice. C'est lui qui va faire justice. Et la Bible dit, il a été fait pour nous justification, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Ainsi, nous pouvons être comblés de différentes façons par Dieu. Enfin, l'Éternel Shama, Yahweh, l'Éternel est présent, Ézéchiel 48, 35, et de ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici », c'est l'avenir, c'est la présence de Dieu certainement sur terre durant le millénium, mais aussi la présence de Dieu dans le ciel éternel, parce que Dieu est présent. Dieu est omniprésent, vous le croyez? Peu importe où nous nous trouvons, on peut conduire en voiture sous le regard de Dieu. On peut être actif dans différentes choses de la journée, Mais Dieu est présent. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est omniprésent. Alors voyez-vous, tous ces noms composés ici correspondent à un besoin dont on a, qui est réel dans notre vie et que Dieu est prêt à combler. Et ces différents aspects de ces noms composés sont là pour nous rappeler qu'il est celui qui peut combler nos besoins. En fait, on va regarder l'Éternel est mon berger. David avait une vie vraiment intime, proche du Seigneur. Et je crois que, je l'ai déjà dit dimanche dernier, mais on dit que la brebis est un animal des plus stupides qui existent sur la terre, qui a toujours besoin de soins intensifs. Et je crois que c'est la même chose dans nos vies, frères et sœurs. Oui, nous sommes devenus des brebis du Seigneur avec nos grandes faiblesses, nos infirmités, nos incapacités, incapacités à nous conduire convenablement, à faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Nous sommes des êtres faibles, faillibles, misérables. Et Dieu est là comme un berger pour nous diriger parce qu'il sait ce qui est bon pour nous. Nous ne connaissons pas par nous-mêmes la volonté de Dieu, mais nous pouvons prier que Dieu nous dirige et il est prêt à nous diriger parce que nous avons besoin de sa direction. En fait, Dieu était l'Éternel, le berger d'Israël. Alors, je vous lis un passage rapidement si vous voulez bien écouter. J'ai pas eu le temps de le lire dimanche dernier. Ça se trouve en Ézéchiel. Dieu a toujours dit qu'Israël était le troupeau de son pâturage, que les enfants d'Israël étaient ses brebis. Voilà ce qu'il dit. « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis. » Pourquoi dit-il qu'il aurait soin lui-même de ses brebis? Parce que les bergers en Israël étaient devenus des faux bergers, des mauvais bergers qui abandonnaient leur rôle de surveiller, de prendre soin du troupeau. J'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de grands pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celles qui sont malades. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. L'Éternel était le berger d'Israël. Et on a vu dimanche dernier qu'il est le bon berger. J'aimerais juste faire une petite remarque. Moi, j'ai été saisi à un moment donné par cette pensée. Jésus, avant d'être déclaré le bon berger, s'est fait brebis pour nous. Vous vous rendez compte? Dieu s'est incarné en un homme. On voit ça en Philippiens 2. Jésus s'est humilié en s'incarnant, en se rendant obéissant envers Dieu le Père jusqu'à sa mort. La Bible dit ceci en Ésaïe 53, qui décrit Jésus comme la brebis qui va être immolée. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Jésus s'est fait brebis pour nous. Et parce qu'il comprend la vie de brebis envers Dieu le Père, son berger, il peut maintenant compatir envers nous. Il nous connaît comme des brebis. Il a revêtu la forme d'un homme. Il sait ce que c'est que de vivre dans un corps avec ses limites. Et il est devenu le berger qui veut prendre soin de nous, ses enfants. Le bon berger. Ça nous a été rappelé ce matin dans la prière. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit, les disperse. Je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. La même relation qui est dans la connaissance de Jésus-Christ envers Dieu le Père et qui est basée sur la connaissance de Dieu le Père envers le Fils est la même relation que Jésus veut avoir envers nous, ses brebis. C'est un amour immense. Autrement dit, l'amour qu'il partage avec Dieu le Père, en tant que fils, il veut que cette même qualité, label d'amour, soit l'objet et l'expérience de tous ses enfants. Est-ce que vraiment vous êtes rentré dans cette plénitude d'une relation intime avec le bon berger qui ne désire qu'une chose, vous aimer, vous combler, combler tous vos besoins? Quels sont vos besoins ce matin? Vous avez peut-être des besoins particuliers, mais en fait, nous avons trois sortes de besoins. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de bien, de rien. Nous avons des besoins physiques, nous avons des besoins matériels et nous avons des besoins spirituels. Oui, nous avons besoin de forces physiques renouvelées. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle nos forces physiques parce que quelque part, vous savez, j'ai lu personnellement, je me suis converti entre autres après avoir lu des livres d'un docteur qui s'appelait Paul Tournier de Suisse qui montrait, n'est-ce pas, la relation de l'âme et du corps. Oui, le corps peut être fatigué pour différentes raisons, mais c'est très lié à l'âme. Et une façon de fortifier le corps, c'est d'être renouvelé en esprit. C'est pour ça qu'Ésaïe dit en chapitre 40, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Alors Dieu n'est jamais fatigué, parce qu'il est Dieu. Vous êtes fatigué? Je suis sûr que vous êtes fatigué ce matin, comme moi, après vous êtes couché très tard, levé, enfin dans mon cas c'était assez tôt. Le Seigneur a trouvé bon de me réveiller assez tôt. Ah, vous êtes un peu fatigué, hein? Oui. Ah ben Dieu est prêt à renouveler vos forces. Voilà ce qu'il dit. Qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc on peut aller avec celui, vers celui qui n'est jamais fatigué. Il augmente, il donne la force à celui qui est fatigué. Ah, c'est bon pour nous ce matin. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est une grâce là, non? Le corps a certainement besoin de repos, j'ai marqué, d'exercice, mais aussi d'être renouvelé. Et puis, dans le service de Dieu, moi j'ai beaucoup de respect envers vous tous qui travaillez toute la semaine et en plus qui travaillez pour le Seigneur dans la semaine, en fin de semaine, et ainsi vous avez consacré votre vie et nos vies en fait, tous et chacun, et nous voulons servir le Seigneur de toute notre force. Mais parfois, il y a un danger pour le chrétien engagé, actif, c'est qu'il peut commencer à faire des choses dans ses propres forces. Et l'épuisement spirituel vient rapidement, et l'épuisement physique aussi. C'est pour ça que Ésaïe nous dit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Mais vous ne l'avez pas voulu. Et parfois, on s'entête à aller, n'est-ce pas, à suivre notre chemin sans se rendre compte qu'on a besoin d'être renouvelé physiquement. Il y a aussi les besoins matériels. Les besoins maternels, Dieu a dit qu'il pourvoirait à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Je me souviens, je vais aller un peu plus vite pour pas trop retarder. Je me souviens un jour, assis sur un banc à Chicago, jeune marié, désireux de servir le Seigneur, et je m'inquiétais. J'avais un métier, je pouvais travailler, mais Dieu a trouvé bon de me dire que je devais apprendre la vie par la foi, à dépendre de lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ce n'est pas ça que je veux dire, mais dans ce cas-là, il y avait un appel. Et puis, j'ai dû apprendre une leçon, et je dirais une leçon pleine de grâce et de miséricorde. J'étais assis sur un banc dans un parc tout seul et je réfléchissais. Louis était enceinte de notre premier enfant. Ensuite, ça allait continuer avec plusieurs autres, comme vous le savez. Et j'ai commencé à me dire, mais comment Dieu va pourvoir On était dans un appartement à Chicago. Dieu nous appelait à aller à Québec. On ne connaissait pas pratiquement Québec. Comment Dieu va pourvoir? On n'avait pratiquement rien à notre compte en banque. Comment Dieu va pourvoir? C'était l'aurore de notre ministère en tant que couple, et on priait tous les jours que Dieu nous dirige vers sa volonté afin d'accomplir ses desseins dans nos vies. Et là, assis sur un banc, Dieu m'a parlé. Ça vous arrive d'avoir une discussion où c'est plutôt Dieu qui vous parle? Et là, assis sur mon banc, Dieu m'a dit, Michel, comme ça littéralement, je vais pourvoir à tous tes besoins. Comme ça. Ah, j'ai eu cette parole dans mon cœur et j'en avais besoin parce que je m'inquiétais. Et Dieu a pourvu à tous nos besoins. On est allé à Québec, on a pris une église avec 23 sous, centimes, de dollars canadiens, notre compte en banque. Et nous avons quitté l'église avec, par la grâce de Dieu, un bâtiment pratiquement payé, une bonne église, et Dieu a pourvu. Mais j'avais eu besoin de cette parole parce qu'il est arrivé parfois que nous n'avions même pas de nourriture pour le lendemain, et Dieu a été fidèle pour pouvoir à chaque jour. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, on a besoin de renouvellement physique, mais on a aussi besoin d'être confiant dans les choses matérielles. Est-ce que vous priez pour tout ce qui est votre vie matérielle? Est-ce que vous avez confiance que tout ce que vous possédez en fait ne vous appartient pas, mais appartient à Dieu? Est-ce que vous avez tout donné au Seigneur afin que ce rien puisse être un tout pour Dieu? Est-ce que vous êtes généreux dans le service de Dieu parce que Dieu a promis de pourvoir à tous vos besoins? George Muller a nourri des centaines d'enfants dans des orphelinats sans avoir jamais plus d'argent pour plus de 3 jours. Et il raconte dans son livre, et lisez ses livres maintenant, ou ses biographies qui ont été écrites par plusieurs écrivains, comment Dieu a pourvu jour après jour à ses besoins. Et quand il est décédé, il n'avait pas un centime, alors qu'il avait eu d'énormes sommes d'argent pour l'œuvre du Seigneur, afin de prouver que Dieu est vivant. Et une façon que le croyant devrait démontrer que son Dieu est vivant, c'est de démontrer et de louer le Seigneur qu'il est maître des choses matérielles et qu'il pourvoit à tous ses besoins matériels. Et puis nous avons des besoins spirituels. Nous en avons constamment besoin d'être comblés dans ce domaine. Ça vous arrive jamais de penser que votre cœur se dessèche et vous avez besoin encore d'amour du Seigneur? Qu'il renouvelle votre amour pour votre conjoint ou pour vos frères et sœurs à l'église ou votre patron qui a peut-être un caractère difficile ou vos collègues de travail qui commencent à vous taper sur les nerfs, façon de parler. Est-ce que vous êtes toujours rempli de l'amour? Ben, Dieu, c'est une fontaine d'amour qui ne tarit jamais. Si vous vous humiliez, si nous nous humilions et nous demandons à Dieu de nous combler de son amour, il ne faillit jamais parce que c'est une source d'amour qui est infinie. Et nous avons aussi besoin de sagesse. Nous avons besoin de sagesse dans toutes les relations qui sont les nôtres dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Et la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Besoin d'amour? Dieu le donne. Besoin de sagesse? Christ est notre sagesse. Il peut nous le donner. Besoin de patience? Vous n'avez jamais besoin de patience? Quelqu'un a dit un jour, je suis impatient de devenir patient. Hein? On est tous des impatients. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je me souviens d'un frère bien-aimé qui est aujourd'hui médecin et qui, lors d'une convention biblique à Bertenberg, en Suisse, a donné son témoignage. J'ai dit, avant ma conversion, j'étais très anxieux. Et il a ajouté, d'ailleurs, je le suis encore. Alors c'était honnête, mais il devait apprendre à se confier en Dieu et à croire que Dieu peut lui donner la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Besoin d'amour, besoin de sagesse, besoin de paix, besoin de tranquillité, besoin de compassion, de pitié, parce que les âmes sont perdues, sont aveuglées par Satan. Qui peut nous donner la compassion pour les âmes perdues? Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Je me souviens d'un frère au Québec, qui était dans le conseil de l'église dans l'église où on était à Québec, et puis qui vraiment languissait après Dieu pour gagner une âme au Seigneur. Et pendant des années, Dieu a trouvé bon, dans son cas, de ne pas lui accorder une âme encore, gagner une âme au Seigneur. Et il priait jusqu'au jour qu'à un moment donné, Dieu a ouvert les écluses des cieux, il a commencé à amener une personne là, une personne là, une personne là, il s'était préparé dans son cœur. Mais je dois dire que plus il gagnait d'âmes, plus sa compassion pour les âmes devenait une agonie languissante dans son cœur pour le salut des âmes. C'est extraordinaire cela, la compassion de Christ. Est-ce que vous pleurez pour des âmes ? Est-ce que vous pleurez pour votre père, votre mère, votre enfant, qui est peut-être pas encore au Seigneur? Est-ce que vous avez une telle compassion dans le cœur que vous pleurez des larmes de Jésus-Christ, de même que Jésus a regardé Jérusalem et a pleuré sur Jérusalem? Un besoin de foi. C'est vrai qu'on prie au Seigneur qu'il nous donne plus de foi, mais est-ce que nous avons cette grâce, cette humilité? Parce que l'humilité et la foi vont de pair. L'orgueil est proche de l'incrédulité dans nos vies. La foi, ça consiste à croire, à se donner, à se dépouiller et à croire que Dieu peut tout faire. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça vous est jamais arrivé de penser que peut-être votre problème, c'est un manque de foi? On peut demander à Dieu d'augmenter notre foi. On peut trouver en Christ une satisfaction, une confiance telle qu'on va encore plus lui faire confiance et avoir plus de foi. Un besoin de direction. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Un besoin de sa présence. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Un besoin d'affection, un besoin de joie, d'humilité, de pardon, un besoin de plénitude. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et puis, un besoin d'abondance spirituelle et matérielle. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors, je termine. Quel est votre besoin ce matin? Peut-être dans la liste qui a été donnée, vous vous êtes retrouvé quelque part. Je répète ma question. Quel est votre besoin ce matin? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment votre berger? Et est-ce que vous croyez que Christ, parce qu'il est votre berger, peut combler absolument tous vos besoins? C'est incroyable, avec la vie qui passe et les années qui passent si vite. Lorsqu'on jette un regard en arrière et on se retrouve dans des endroits où on s'est inquiété pour tel aspect, et finalement, on a vu Dieu agir, donc on s'est inquiété pour rien. 90 à 95% de nos inquiétudes sont des inquiétudes inutiles dans nos vies. Mais ce serait tellement plus simple d'avoir la foi et de dire, Seigneur, prends soin de moi, comble-moi par ta grâce. Vous le croyez cela? Alors là où vous êtes, on va terminer dans un moment de silence. Si ce message a eu un écho dans votre cœur, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes de silence. Et à votre esprit, il vient peut-être un besoin particulier. Quelque chose dont vous avez vraiment besoin dans votre vie. C'est peut-être un conjoint, c'est peut-être un don d'argent, ou un travail, ou une nouvelle relation, ou un changement dans votre cœur intérieur, ou un nouveau type de relation avec des gens qui vous entourent, peut-être avec le Seigneur lui-même. Alors, n'oubliez pas, l'Éternel est mon berger, c'est votre berger. Je ne manquerai de rien, parce que Dieu est tout puissant, tout suffisant, omniprésent pour combler vos besoins. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu vois exactement là où nous nous trouvons chacun. Tu connais nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins spirituels. Et nous venons à toi comme des brebis faillibles, des brebis fragiles, faibles. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous reconnaissons ce matin que tu es le berger de nos âmes, que tu es le berger de notre vie. Seigneur, tu es le berger de ma vie. Je suis une brebis, je t'appartiens. Et tu veux me combler de tous tes bienfaits. Alors je viens à toi, Seigneur, pour que tu combles ma vie de tous tes bienfaits, que je ne me prive pas de tout ce que tu as en réserve pour moi, mais que j'ai la foi. Et peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui doit se donner au Seigneur et qui peut prier dans son cœur, Seigneur, oui, je te reçois dans ma vie. Ou quelqu'un qui dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai manqué de foi, là où je me trouve, là où je suis, dans la situation où je me trouve, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne mon cœur, prends mon cœur, ma vie, comble-la, j'ai foi en toi. Merci Seigneur, encore de nous avoir accompagnés ce matin. Merci de ta bénédiction, de ta grâce infinie. Merci de nous combler de tous tes bienfaits. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen.